Chapitre 50. Charcot avait préféré marcher jusqu'au laboratoire privé, situé à même pas 2 kilomètres du bastion. Pendant ce temps, il le savait, Nicolas avait été convoqué dans le bureau du chef de la crime. Un sale quart d'heure en perspective. Des sanctions administratives tomberaient ensuite, mais Franck s'en doutait, c'était le moindre des soucis de son coéquipier. Si le bébé venait à naître, la carrière de Nicolas passerait au second plan. Toxlab ne payait pas de mine. Une façade grisâtre au rez-de-chaussée d'un immeuble quelconque, rue Jacques-Cartier. Il était pourtant devenu, depuis 2020, une antenne de la police scientifique de Paris et se chargeait de la plupart de leurs analyses toxicologiques. Un endroit où le flic se rendait à chaque enquête, tant la science avait aujourd'hui pris une place importante dans les investigations. Martha Pelis, l'experte qu'il avait appelée, l'attendait de pied ferme. Franck appréciait beaucoup cette femme, une presque retraitée qu'il connaissait de longue date. Ses airs de hippie et sa blouse souvent mal boutonnée cachaient un esprit brillant pour qui les molécules n'avaient plus de secret.
On ne parle plus que de ce qui arrive à Audra ici, fit-elle en avançant dans un interminable couloir. Je n'ai pas eu l'occasion de la fréquenter régulièrement, mais je l'aimais bien. Vive, engagée.
On l'aimait tous bien. Elle est encore là, mais elle nous manque déjà. C'est une situation tellement étrange et difficile.
À part une minorité de réfractaires dans le service, qui sont de toute façon contre tout, on est avec Nicolas. Il a raison de se battre.
Ce bébé serait quand même une sacrée bouffée d'oxygène dans la mer de noir qu'on traverse tous en ce moment, tu ne crois pas?
Comme le triomphe de la vie.
Si, si. Martha comprit que le sujet était extrêmement sensible, alors elle n'insista pas. Ils passèrent devant des pièces où des spectromètres de masse, des microscopes, des chromatographes recherchaient toutes sortes de composés chimiques. Poisons, drogues, anxiolytiques, alcool. La technicienne referma la porte de son bureau, encombrée de scellés provenant de tout Paris, et invita Franck à s'asseoir.
Pascal Robillard m'a raconté ce qui s'était passé en me remettant les prélèvements issus de cette cabane dans les marais. Le matériel, l'espèce de salle médicale clandestine. Quand je vois les produits qu'on comptait injecter, je peux te dire que tu reviens de très très loin, mon vieux.
Franck ressentit une raideur dans la nuque.
Il se voyait encore traverser la vitre, la tête rentrée entre les épaules. Revivait sa plongée dans les marécages glacés, les lampes de ces malades qui sondaient la surface de l'eau.
Vas-y, annonce la couleur.
Je te la fais version technique ou version néophyte?
À ton avis.
Mince sourire quand même, malgré la gravité du sujet. Elle poussa une pochette plastifiée vers lui. Pour les détails, c'est là-dedans, de toute façon.
Bon.
Au regard des prélèvements et des informations fournies par ton procédurier, on avait sans doute l'intention de t'administrer 2 types de cocktails. Le premier contenait du chlorure de potassium et du dacléor. Tu le sais probablement, le chlorure de potassium à trop forte dose peut provoquer un arrêt cardiaque. Ici, on était sur une quantité très faible qui, à elle seule, n'aurait pas suffi à t'envoyer 6 pieds sous terre. En revanche, couplé au dacléor, c'est une toute autre histoire.
C'est quoi le dacléor?
Un myorelaxant qui a un puissant effet dépresseur sur le système nerveux central. On le prescrit de manière générale pour le traitement de l'alcoolisme. Mal administré, il est bien connu pour ses dramatiques effets secondaires. Entre 60 et 80 mg, des convulsions, de la tachycardie. De 80 à 300 mg, d'importantes complications respiratoires et cardio-circulatoires, avec des séquelles neurologiques possibles. Elle prit une inspiration. La seringue en contenait 450 mg, Franck. Et comme je te l'ai dit, mélangée de surcroît avec du chlorure de potassium. Charcot se crispa sur sa chaise. Ses résultats lui donnèrent la chair de poule.
Il voulait me tuer?
Oui, et pas qu'un peu. J'ai pu mettre la main sur quelques exemples documentés à travers le monde de personnes ayant subi de tels surdosages de dacléor, continua Martha. La plupart ont été fatales, mais certaines intoxications ont été de véritables trompe-la-mort. Un extraordinaire cas clinique est notamment sorti en 2018, au sujet d'une citoyenne américaine qui prenait du Dacléor pour se sevrer de l'alcool. Je l'ai joint en rapport pour info. Dans la pochette que Frank feuilleta, des données, des conclusions, une synthèse carrée, comme Martha savait les faire. Cette femme, donc, trafique une ordonnance pour obtenir davantage de produits. Un jour, elle est retrouvée inconsciente à son domicile par son mari et est conduite à l'hôpital sur le champ. Les médecins l'intubent en soins intensifs, ils s'aperçoivent qu'elle ne présente plus aucun réflexe du tronc cérébral. Seul son cœur bat de manière spontanée. Son cerveau ne fonctionne plus. Autrement dit, elle est officiellement morte. Un prélèvement d'organes a lieu. Et c'est là qu'on a l'impression d'être dans un film. Parce que, au moment où on l'emmène au bloc, elle se met à avoir des mouvements délibérés. Frank imagina sans mal la scène. La femme qui ouvre les yeux à la seconde où on lui pose le scalpel sur le ventre, la stupeur de l'équipe chirurgicale. Bref, je ne te fais pas de dessin. Celui qui comptait injecter ce mélange s'assurait de l'arrêt de ton cœur et de ton cerveau. Le tout quasi simultanément. Le flic s'affaissa sur sa chaise, sonné. Même s'il se doutait que cet arrêt ne lui voulait pas de bien, se l'entendre dire de cette façon était très perturbant. « Merde !» souffla-t-il. Mais le clou du spectacle, c'est que selon toute vraisemblance, on prévoyait de te ramener avec la deuxième seringue. Celle-ci contenait en effet de l'adrénaline et d'autres composés dont je t'épargne les détails. De quoi relancer le cœur et désinhiber la neurotransmission. Pour être honnête, je n'ai jamais été confronté à un truc pareil. Je ne sais pas quelle est la probabilité pour que ça fonctionne, mais il est évident que quelqu'un joue au docteur Frankenstein. Et ce n'est pas le premier venu, puisqu'il a fallu se procurer des produits qu'on ne trouve pas d'un simple claquement de doigts, être capable de les doser au milligramme près, de se servir d'un électroencéphalogramme portatif. Frank commençait à entrevoir ce à quoi il avait affaire, et ça défiait tout ce qu'il aurait pu imaginer. La faille était en fait un véritable aller-retour de quelques secondes ou de quelques minutes dans l'au-delà. Un voyage dans un territoire inexploré et méconnu. Les derniers mots de Nebraza lui revinrent soudain à l'esprit. « Je n'ai pas failli mourir. J'ai été mort. » Oui, l'homme squelette avait été mort, réellement. Et il était revenu, transformé, terrorisé. Le flic essaya de mettre de l'ordre dans ses idées. Il relata à l'experte l'histoire de Nebraza, lui parla des cas de Dubois et de Calvar, les EMI négatives, les cheveux blancs, le harcèlement des diables. Les yeux de Martha s'agrandissaient au fur et à mesure de son récit. « À ton avis, ce genre de cocktail pourrait provoquer par la suite ce type d'hallucination ?» demanda Charcot. « Et le blanchiment des cheveux ?» « Bon sang, je te signale quand même qu'il s'agit d'interrompre le fonctionnement du corps humain. Plus de battements cardiaques, arrêt net de l'apport d'oxygène dans le cerveau et de toutes les cellules de l'organisme. C'est quoi ce délire ?» Martha se massa les tempes comme un matin de gueule de bois. Même son esprit de scientifique aguerri peinait à raccrocher les wagons. « Qu'est-ce qu'ils cherchent, ceux qui font ça ?» Frank resta immobile, les lèvres pincées. Elle comprit qu'il était lui aussi perdu. Après avoir encaissé, elle finit par répondre. « Pour les hallucinations, c'est possible. Après un certain délai, différent selon le type de cellule, chaque seconde qui s'écoule cause des dégâts irréversibles. Niveau cerveau, le manque d'oxygène implique la destruction de millions de neurones qui ne pourront jamais se régénérer. On a beau relancer la machine, une telle expérience doit laisser des séquelles immédiates ou qui se manifesteront plus tard. » Ça ne me paraît donc pas fou d'imaginer des conséquences à plus ou moins court terme sur des zones spécifiques du cortex. Peut-être que ça déclencherait une sorte de schizophrénie. Quant au blanchiment des cheveux, elle prit le temps de la réflexion. Leur pigmentation est assurée par la mélanine, produite par des cellules appelées mélanocytes. L'année dernière, des chercheurs ont découvert que les mélanocytes étaient pourvus de longues branches qui envoyait un influx électrique pour communiquer, exactement comme les neurones. Encore une fois, cette violence infligée au corps pourrait très bien avoir déréglé toute cette chimie. Charcot y voyait beaucoup plus clair en ce qui concernait Nebraza. L'homme squelettique s'était un jour, et de manière intentionnelle, retrouvé face à ces dégénérés pour vivre l'expérience la plus extrême qui soit. Il les avait laissés lui injecter leur mélange dans les veines et était mort avant qu'on ne le ramène du côté des vivants. Impossible de savoir ce qui s'était passé juste après, mais la faille avait sans doute endommagé une partie de son cerveau, la même que celle qui occasionnait le syndrome de Cotard, et impliquait un blanchiment prématuré de ses cheveux. Une question essentielle subsistait pourtant. Pourquoi Philippe Dubois, l'interné de Sainte-Anne, et Rémi Calvard, le criminel récidiviste, avaient-ils présenté des symptômes similaires alors qu'ils n'avaient, selon toute vraisemblance, pas connu la faille? En effet, eux avaient connu leur EMI à l'hôpital suite à... Soudain, un interrupteur s'alluma dans la tête de Charcot. C'était peut-être un pur hasard, mais il avait l'impression d'entrevoir un lien ténu, un fil presque invisible qui pourrait donner une cohérence à l'ensemble. Il se leva aussitôt de sa chaise, prêt à partir. « Merci, Martin. Comme toujours, tu as été impeccable. » Elle lui adressa un sourire. « Tiens-moi informé de ton enquête, ok ? Et fais gaffe à toi, Franck. Ceux qui sont capables de faire une chose pareille ne se laisseront pas prendre facilement. Tu n'auras pas de deuxième chance. » « Promis. Et embrasse Nicolas de ma part. » Quelques instants plus tard, Charcot reprenait le chemin du bastion, retourné par ses incroyables découvertes. Le docteur Frankenstein. Si son intuition se révélait exacte, l'affaire était encore plus monstrueuse que tout ce qu'il avait pu imaginer.